ça n'est pas moi seulement qu'on assassine, c'est l'élection présidentielle.
Mais je suis désolé de vous dire, on se fout des programmes. Ce qui importe, c'est la vision.
C'est préoccupant pour un jeune président de la République de se comporter comme un monarque.
Ne parlez pas de répression, de violence policière. Ces mots sont inacceptables dans un état de droit.
Trois quarts des sondés estiment qu'il faut renforcer les pouvoirs, non pas du président, mais du Parlement.
Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser.
À la fin de chaque mandat, c'est toujours le même tableau. On présente au peuple français des candidats, petits ou grands, bobos ou populos. On les aime, on les adore, on les déteste, on les combat, on les choisit et ils nous gouvernent pendant 5 ans.
La démocratie, quoi.
On a presque l'impression que sans ça, le ciel nous tomberait sur la tête. Mais une petite rengaine revient régulièrement. Dans l'ensemble, les Français n'ont pas trop confiance en leur système politique.
En tous les cas, les sondés.
De l'autre côté, on voit qu'Allemands et Anglais semblent beaucoup plus confiants dans leurs élus.
Du moins, les sondés.
En France, dans le détail, cette confiance varie beaucoup selon les institutions. Le conseil municipal bénéficie d'une très large confiance chez les sondés, là où les assemblées parlementaires, moyennement, et le président, beaucoup moins. C'est un schéma répétitif et constant. Nous nous méfions de nos représentants. Si notre démocratie est si bonne et si unique, pourquoi les Français n'ont-ils pas confiance en elle? Qu'est-ce qui participe à cette défiance? Et d'où est-ce que ça vient? Évidemment, la première explication est que... À la surprise générale, le problème principal, c'est l'élection présidentielle. De par ce qu'elle est et ce qu'elle représente, l'élection présidentielle a tué la démocratie française. Déjà, problème numéro 1, les candidats. Un candidat, c'est quelqu'un. Mais c'est pas quelqu'un comme tout le monde, c'est un animal médiatique. Plus proche d'un personnage de feuilleton que d'une vraie personne, son rôle est écrit, préparé et construit de façon à incarner une certaine image. Il peut ainsi être tantôt aidé, tantôt desservi par la mise en scène médiatique. S'il tremble, s'énerve, a trop de feuilles devant lui ou perd juste la boule pendant une minute, plus personne n'a confiance en lui. À l'inverse, l'attitude cool ou décalée face caméra d'un candidat compte peut-être plus que son intégrité.
Vous les vendez ou vous les donnez ?
Je lève des chats.
Mais vous
les vendez ? Je suis agricultrice, je suis...
Ben bien sûr. Mais je vais vous trouver un mec.
Marine, c'est quoi votre type de mec ?
Mais je ne veux pas.
Un chef vigoureux, au regard pénétrant les foules, conquiert les cœurs.
Voilà. Voilà.
Mais tout cela n'a rien à voir avec leur vraie personne. Un candidat affable peut se révéler un président violent.
Ne parlez pas de répression ou de violence policière. Ces mots sont inacceptables dans un état de droit.
Un candidat prometteur pour certains peut cacher un président parjure. Les programmes sont passés à la moulinette médiatique. Les idées d'un candidat ne sont plus ce pour quoi il se présente, mais sont des objets de communication. Ce ne sont que des moyens, quand ils sont bien employés, de se faire élire.
Mais je suis désolé de vous dire, on se fout des programmes! Ce qui importe, c'est la vision!
En mais en plus, ces mêmes candidats, artificiels et surdopés à la communication médiatique, nous sont un peu imposés. Si on veut voter pour un programme, on doit voter pour un candidat donné. C'est une élection qui devient personnelle. Et qui dit élection personnelle, dit personnalisation du débat. Un débat personnalisé ne parle plus tant d'idées, de programmes, de méthodes et de philosophie que de la dernière sortie, du physique ou de la couleur de la veste des candidats.
Qu'est-ce qu'il y a ? Vous l'aimez pas ? Ça brille beaucoup, hein ?
Plus insidieux, le débat peut doucement glisser du programme et de sa crédibilité technique à la crédibilité du candidat lui-même. Et en combinant personnalisation et artificialisation, on en arrive à une politique tout en superficialité.
Les Français ont aussi pu voir le vrai Macron hein, dans ce second tour. La bienveillance a fait place à la médisance.
Certains diront encore « On s'en fiche, c'est le peuple qui vote, c'est démocratique !» Mais encore heureux, ça c'est la base de la démocratie, les fondations. Quand vous n'avez que les fondations d'une maison, n'avez pas une maison, quid de la confiance? Parce qu'il ne suffit pas de dire « le peuple a voté », il faut encore s'assurer que les institutions puissent fonctionner de façon sincère. Et c'est le problème des élections présidentielles en tant que telles. Avec un scrutin artificialisé et personnalisé, la campagne repose plus sur le caractère et l'image du candidat et moins sur ses idées et ses engagements. Alors certes, l'image et le caractère d'un chef peuvent exercer une influence déterminante sur l'avenir d'une nation. Prenez Chirac. Un jour, il a torpillé son camp.
j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale.
Un autre, il nous a évité la guerre en Irak.
L'Irak ne représente pas aujourd'hui une menace immédiate telle qu'elle justifie une guerre immédiate.
Mais l'avenir de la France doit-il reposer sur l'image ou le caractère du seul président mal élu, non représentatif et irresponsable de ses actes officiels ? L'élection présidentielle entretient l'idée dans l'inconscient français que le pouvoir démocratique doit être un pouvoir d'image et de personne. Mais c'est tout l'inverse. Le pouvoir démocratique doit être collégial, mesuré et surtout dépersonnalisé. Le règne des idées et des lois et non le règne des petits chefs aux décisions arbitraires. D'un point de vue démocratique, c'est l'avantage que les gouvernements ont sur les chefs d'État. Ce sont des structures collégiales. Les défauts de l'un de ses membres peuvent être rattrapés par les performances d'un autre et donner un ensemble moins inacceptable. Rien de tout cela avec un président unique. Sa personnalité est cruciale alors qu'elle devrait être secondaire. On est tous prêts à défendre la personne du candidat qui portera nos idées. Et c'est normal, c'est mécanique. Si on laisse sa personne sacrée être attaquée, alors nos idées ne passeront pas. Plus encore, cette façon de concevoir le pouvoir démocratique nous détourne des vraies questions. En effet, le temps médiatique des campagnes devient essentiellement tourné vers les outils de communication. Il s'agit de faire du buzz sur le candidat, trouver la petite phrase qui va le lancer ou être celui qui l'aura fait bafouiller.
C'était un moment de grâce, voilà. C'était un moment unique.
Ça rapporte des vues, ça crée de l'audimat.
Éric Zemmour, on va pas se mentir, c'est toujours un carton d'audience. Ouais.
Mais où est le débat de fond, celui des conceptions différentes, fondées sur des visions du monde et des valeurs différentes ? Il existe bien dans les débats officiels, mais comparer le temps des débats officiels avec tous les plateaux de verbiage. C'est le jour et la nuit. Alors que le débat d'idées devrait être premier et roi de la scène médiatique, il n'est qu'un exercice encore trop rare.
C'est préoccupant pour un jeune président de la République qui voulait renouveler le style de l'action politique de revenir, j'allais dire, à des archaïsmes, hein, de se comporter dans la Ve République comme un monarque.
Les élections présidentielles artificialise le débat en incitant les personnalités politiques à davantage travailler leur image que leur programme. Parce que l'image, bah, ça rapporte plus que le programme. Cette double concentration des moyens politiques autour de l'image et de l'opinion est un passe-droit que les Français laissent à leurs gouvernants. Et ça leur va aux gouvernants. Un programme, ça demande du travail, de l'expertise et de la maîtrise technique. Ça entraîne des débats pénibles sur des notions complexes et peu attirantes. L'économie, la dette, les réformes structurelles, la retraite à points.
Non, pas la retraite à points.
Alors que si tout n'est qu'une question d'image, un candidat peut même débiter des âneries sans plomber ses sondages.
Ça n'est pas moi seulement qu'on assassine, c'est l'élection présidentielle.
Et c'est un problème spécifique de l'élection présidentielle. À la fois artificielle et personnalisée, les candidats ne sont plus les porte-voix d'idées, mais des créatures entraînées à répondre aux besoins médiatiques. Le programme, c'est en option. Mais quelles conséquences, en vrai, concrètement ? Un des meilleurs exemples, c'est le traité de Lisbonne. C'est en se concentrant sur les personnes et pas les programmes qu'on arrive à cette situation délirante qu'a représenté le Congrès de 2008. Alors comme c'est un peu technique, on a été chercher un super pro des trucs techniques.
Le spécialiste des trucs techniques présente le Congrès de 2008.
Avant de parler de 2008, il faut parler de 2005. En 2005, un projet de réforme des institutions européennes est proposé aux peuples européens. C'est le traité de Rome II, qui portait une constitution européenne. Cependant, le 29 mai 2005, le peuple français rejette le projet à presque 55%. Et le projet, donc, du coup, enterré. Mais cette idée de renforcement de l'Europe est cher à la droite traditionnelle. Dès 2006, Nicolas Sarkozy entame donc une campagne pour promouvoir le contenu du traité qui a été rejeté. Il aura juste changé le nom et l'apparence. C'est ce qu'on a appelé la déconstitutionnalisation du traité de Rome, qui en devient une sorte de mini-traité, mais aux très grosses conséquences. Assez paradoxalement, le peuple a élu 2 ans plus tard Nicolas Sarkozy, pourtant fervent partisan de la cause européenne. Dans la foulée, les Français élisent aussi une majorité UMP très européiste à l'Assemblée nationale. À la suite de ces élections, Sarkozy relance le processus européen et décide de ne pas soumettre ce projet au référendum, mais d'utiliser le Congrès, la réunion solennelle des deux assemblées parlementaires, largement dominée par sa majorité. il était sur du velours. Ceci aboutit à l'adoption du traité de Lisbonne en 2008, qui a donné les institutions européennes telles qu'on les connaît aujourd'hui. Voilà, simple, efficace, atroce. On s'est fait niquer.
C'était le spécialiste des trucs techniques.
Si 55% des Français ont rejeté la Constitution européenne en 2005, pourquoi 53% d'entre eux ont mis Sarkozy et l'UMP au pouvoir, eux qui ne se sont jamais cachés d'être très pro-Europe? Vous pensez qu'en 2 ans, le peuple français a changé d'avis sur l'Europe? On a vu que c'était possible chez les Anglais avec le Brexit, hein. Mais le vrai problème, c'est que les élections de 2007 ont occulté les questions de fond par leur hyper-personnalisation, point fort de Sarkozy.
Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser.
Une petite phrase et une heure de visite.
On a plus parlé de ces petites phrases et des pics de droite comme de gauche que de programmes et d'idées.
Et je suis très en colère. Et les parents et les familles qui vous
calmez-vous,
en... Et les parents... Non, je ne me calmerai pas.
Ne montez pas du doigt avec cet index pointé parce que franchement...
Non, je ne me calmerai pas. Je ne me calmerai pas. Je ne me calmerai pas.
Pour être président de la République, il faut être calme.
Non.
Par son battage médiatique sur l'insécurité, Sarkozy a fait oublier à ses électeurs souverainistes son projet européen tout en rassurant ses votants européistes. Les présidentielles nous contraignent à choisir un candidat plastique et artificiel, gonflé aux stéroïdes médiatiques qui parfois ne nous plaît pas, mais qu'on est forcé de choisir parce que celui d'en face est pire. Pour faire barrage à des idées que l'on hait, on peut être amené à voter pour un candidat que l'on déteste. Et peu à peu, cette organisation de la démocratie mine la confiance dans les institutions. Comment peut-on avoir confiance en un système qui nous ment?
Les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade.
Au-delà des mensonges ponctuels d'un gouvernement, ce problème de confiance vient d'une duperie qu'entretiennent les élections présidentielles. Issu d'un parti, d'une faction, le candidat vainqueur se présente malgré tout comme l'élu de tous les Français. Le voilà, le nœud gordien. Tant qu'on aura un président partisan qui affirme être le représentant de tous les Français, la méfiance restera présente. Et vous savez pourquoi? En principe, on trouve normal qu'un gouvernement, porté par une majorité élue sur un programme, mène la politique pour laquelle le peuple l'a choisi. Sauf qu'on dit d'un côté que le président est l'élu de tous les Français, mais de l'autre, qu'il doit disposer d'une majorité pour gouverner. Un gouvernement ne se revendique pas d'être le représentant de tous les Français. Sa majorité est partisane et a des oppositions. Le président, lui, se paye le luxe d'être le représentant de tous alors qu'il n'en sert que certains. Cette ambivalence, on la retrouve dans le lexique médiatique et politique. Rassembler, vote utile, candidat de l'Union, du barrage, comme si au fond, magiquement, au second tour, il dépassait sa propre famille politique pour devenir le président de tous les Français. Cette illusion d'un président de tout le peuple est la cause de méfiance dans les institutions démocratiques. En établissant une équivalence entre le candidat élu et la volonté de tout un peuple, les présidentielles renforcent une autre défiance. Elles détruisent toute légitimité des députés. Élus d'une circonscription réputée partisan, flemmard et surpayé, les députés sont en tout second au président qui est, lui, élu de toute la nation, toujours montré actif et à l'initiative. Les députés deviennent une décoration, perroquet présidentiel dont l'opinion n'a d'intérêt que quand elle concorde avec le locataire de l'Élysée, factieuse et opportuniste quand elle s'y oppose.
Et oui, mes chers collègues, oui, même si ça vous embête, on est là. On est là, et même si depuis le début du mandat, vous ne le voulez pas, on est là!
Et c'est, d'une certaine façon, le corollaire du problème précédent. Sur le temps long, ce paradoxe entre un président de tous les Français, mais néanmoins partisan, empêche l'Assemblée, l'institution qui est censée faire la synthèse entre pluralité des opinions et décision majoritaire, de fonctionner. Il ne peut y avoir deux représentants du peuple. Entre le Parlement et le président, il faut choisir. Et la France a choisi. Tout le monde joue à ce jeu-là. Tous les camps politiques s'obsèdent sur la présidentielle et ne parlent des législatives qu'à la dernière seconde. Alors qu'un parlement, c'est divers. Ça représente des sensibilités, des divergences comme des convergences, à la fois d'intérêts, mais aussi de valeurs.
Seulement 12% des Français interrogés trouvent qu'il faut maintenir en l'état la Ve République et que nos institutions fonctionnent bien. Et 73%, trois quarts des sondés, estiment qu'il faut renforcer les pouvoirs, non pas du président, mais du Parlement, stop à la présidentialisation.
Dans un Parlement, on parlemente, on échange, on marchande, on justifie, on raisonne, on dénonce, on fabrique de la démocratie et de la confiance. Avec un président, et surtout Jupiter, on s'écrase. Ça peut finir par taper sur le système.
Et ça monte, ça monte, ça monte, jusqu'à ce que mon petit chef dise fonce. Et ça fait bim, bam, boum, ça fait, et ça fait ouille.
Je peux vous dire, il y a des violences policières, si ça vous fait plaisir que je le dise. On va pas jouer non, à ni oui ni non.
Cette méfiance des Français dans leurs représentants amène à davantage d'abstention. À force de répéter l'importance de la fonction présidentielle pour la gestion politique de la France, il est normal que les Français se désintéressent des autres élections. À quoi ça sert d'aller voter pour des trucs qui ne servent à rien, puisque tout émane du président? Les politiques ont alors beau jeu de critiquer une situation qu'ils causent et entretiennent.
Je les appelle au sursaut. Tous ceux qui veulent exprimer leur opposition à l'action de ce gouvernement qui conduit le pays au chaos ont le devoir de réagir.
On moralise sournoisement le peuple. Vous ne votez pas assez, c'est pas bien, vous ne méritez pas, la démocratie, ça se mérite.
Nous avons d'abord des devoirs à l'égard de la nation qui nous protège, nous éduque, nous soigne et nous porte. Une fois ces devoirs remplis, nous pouvons nous interroger sur les droits.
Rien n'est fait pour pallier ces situations. Le vote blanc, c'est non. L'initiative citoyenne, le moins possible. L'autogestion locale, quand c'est vraiment pour pas grand-chose. Pire encore, pendant ce dernier quinquennat, le grand débat ou la convention citoyenne pour le climat n'ont fait qu'accroître la défiance du peuple envers le pouvoir. Ce dernier exemple l'illustre bien. D'un engagement ferme et clair du chef de l'État de soumettre sans filtre aux Français les propositions d'une assemblée de citoyens tirés au sort, on est arrivé à rien du tout. La promesse présidentielle d'une part et le travail autonome de citoyens de l'autre, bafoués par un revirement capricieux d'un président autocrate, n'ont fait qu'aggraver encore l'incertitude démocratique. Si tout est verrouillé, alors à quoi bon? On se résigne? On fout le feu?
On va tout cramer, il faudra pas demander d'où ça vient!
Aujourd'hui, les Français sont coincés. Collés à un imaginaire présidentiel toxique et débilitant, leur volonté de s'investir pour peser dans l'avenir de la France est structurellement neutralisée. On fait en sorte que personne n'ait envie de rien, sauf des présidentielles. Mais au fond, a-t-on vraiment besoin de ces élections présidentielles? L'Allemagne fait très bien sans. L'Angleterre, pareil. L'Espagne, l'Italie, le Danemark, la Suède et la Norvège, pareil. Les élections présidentielles rendent naturel et évident ce qui ne l'est pas. On nous répète, avec cette constance qui tient de l'obsession perverse, qu'il nous faut des élections présidentielles directes parce qu'il nous faut un chef fort. Mais rien ne montre que la gestion par un chef unique rend la politique plus efficace. Certains des pays dont je viens de parler, l'Allemagne, les Pays-Bas ou encore le Danemark, la Norvège et la Suède, ont des systèmes politiques où les pouvoirs sont collégiaux et où les compétences et la liberté de l'exécutif sont limitées. Et pourtant, qui dirait que l'Allemagne a un gouvernement faible? Mais en France, quand on demande pourquoi le président doit décider, pourquoi ce chef-là doit être fort et pas les autres, on répond qu'il est élu par le peuple. Il faut donc qu'il décide, sinon c'est pas démocratique. Non, l'élu quoi. On répond aussi que le Premier ministre, les députés ne sont pas élus directement par toute la nation. Ils n'ont pas la légitimité du président. Le président représente tous les Français et serait responsable devant eux tous les 5 ans. On a beaucoup retrouvé cette idée au cours de l'histoire politique française. Elle plaisait bien à De Gaulle. Giscard d'Estaing et Pompidou aussi s'étaient laissés charmer par cette gentille ritournelle qui flatte l'ego. Et oui, Mitterrand aussi. Genre, beaucoup. Tonton Mimi, il aimait ça, hein, le culte présidentiel, après l'avoir tant condamné.
Je suis le dernier des grands présidents. Après moi, il n'y aura plus que des financiers et des comptables.
Plus récemment, l'hyper-président Sarkozy a remis une pièce dans la machine. En qualifiant son Premier ministre de « collaborateur », Nicolas Sarkozy entendait occuper l'esprit des Français. Cette place prépondérante que confèrent les élections présidentielles aux locataires de l'Élysée transforme et distorde le tissu social, politique et médiatique. Les élections présidentielles sont ainsi le moyen le plus efficace de garder la majorité des citoyens silencieuse et docile. En s'obstinant à penser qu'un élu direct du peuple doit avoir autant de pouvoir, on finit par aboutir à cette figure qui ne peut être qu'un mépris et une négation de la démocratie. Le monarque présidentiel, décideur de tout, mais responsable de rien.
Oui, et eh ben alors, on fait quoi hein? Tu donnes pas de solution dans ta vidéo. Elle est nulle, ta vidéo.
Les élections ne sont pas la fin en soi de la démocratie. Elles ne suffisent à rien. Dire « nous sommes en démocratie car il y a des élections », ça ne veut rien dire. La démocratie, ce n'est pas « je choisis un chef et je la ferme ». La démocratie, c'est se donner nous-mêmes nos lois et consentir à y obéir pour l'intérêt collectif. Et sans liberté de la presse, sans diversité des médias, sans liberté publique de manifester, d'interpeller, de contester, sans représentativité sincère du scrutin, les élections ne sont que des mascarades destinées à rendre juste et vrai ce qui est faux et mauvais. Les élections ne doivent être et rester qu'un moyen, de permettre au peuple de triompher et d'être autonome. Mais si elles aboutissent à son bâillonnement et à son endormissement politique, elles font partie du problème.
Je veux être le candidat du peuple de France.
J'ai été à la table de ce débat, la voix du peuple.
Dire « le peuple veut ceci, cela » sans procédure sérieuse, indépendante, contrôlée, équitable et sincère, c'est se servir d'une marionnette qu'on agite devant un parterre de citoyens infantilisés en leur disant « Vous voyez, c'est ça que vous voulez. C'est le peuple qui le dit. Les élections présidentielles telles que nous les connaissons amplifient et justifient tout cela. Elles permettent et favorisent cette hypnose de masse particulièrement forte aujourd'hui où, dans notre société hyper-propagandiste, tout est devenu marchandise susceptible d'être mise en publicité. Ces élections ridicules n'ont de démocratique que le nom et sont une imposture, de leur organisation jusqu'à leurs conséquences les plus profondes sur l'inconscient collectif des Français. Mais, suffisamment répétés, ces mensonges finissent par paraître vrais. Le pouvoir des gouvernants réside essentiellement dans notre inaction collective, parce qu'au fond, nous, les êtres humains, on ne veut pas agir, on ne veut pas changer. Se mêler de démocratie, c'est épuisant. Et à la fin, personne n'obtient jamais tout à fait ce qu'il veut. De ce fait, sans vraiment le vouloir, sans vraiment le savoir, avec faiblesse, imprécision, manque de coordination et gaucherie, des hommes politiques, dont on se figure une puissance absolument factice, nous maintiennent à genoux. Ils puisent dans cette force incroyable, totale, invisible et pourtant si volatile, l'habitude. L'habitude de voter ainsi, l'habitude de détester son président, l'habitude d'attendre le crash final qui peut-être nous libérera définitivement. La bonne nouvelle avec les habitudes, c'est qu'il suffit d'en changer pour tout changer. Le pouvoir reste entre nos mains. Toujours. Allez, pour se remonter le moral, on se quitte avec une citation inspirante du genre « Le plus excellent symbole du peuple, c'est le pavé. On marche dessus jusqu'à ce qu'il vous tombe sur la tête. »
Ça ne m'émeut pas.
Abonnez-vous et faites un nom à Blast !